J'ai réduit totalement ce
qui est
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous accorde la parole. Dans les cadres de la lutte contre l'incivisme routier et l'assainissement du secteur du transport, plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement congolais. L'acquisition de près de 300 bus et sa mise en circulation pour les transports en commun dans les prochains jours témoignent l'engagement de l'autorité du transport et voies de communication de lutter contre les accidents de route qui sont devenus récurrents et inquiétants. Le dernier cas en date, c'est celui survenu le vendredi 3 mai, entraînant la perte de 23 personnes suite au dérapage sur le boulevard Grimbé à la hauteur du pont Calamou d'un bus Mercedes 207. S'agissant de la semaine dernière aux usagers de la route, le ministre national a souligné l'irresponsabilité et l'incivisme routier à la base de l'insécurité sur nos routes. Nous vous accordons la parole aujourd'hui pour faire le bilan à mi-parcours de toutes ces réformes initiées par le ministère des Transports. 081-890-6315 pour votre intervention en direct et rejoignez-nous également à l'adresse ca@radiocapi.net ou bien sur notre page Facebook. Kiki Poutou et Pierrot et la Mégie, ajoutés à cela, Béry Fontaine et Chaka sont à la réalisation et Paul Badianyam à la mise en onde. Jérôme Lugo présente cette émission supervisée par Nicole Ngata. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet ca@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Jérôme Lugo. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Nous avons déjà quelques auditeurs en ligne. Il y a Maître Massaka qui est à Lubumbashi et Mathieu à Kananga. Maître Massaka, bonjour.
Bonjour, Maître JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quel est le bilan qu'on peut faire par rapport à toutes ces réformes initiées par le ministère du Transport?
Merci beaucoup, Maître JR, de m'avoir accordé encore l'opportunité d'intervenir dans notre émission Parole aux auditeurs. Selon moi, M. Gilles, l'initiative est bonne et le bilan, je peux dire, est très positif. Mais le problème qui est là, c'est les mesures d'encadrement que les ministres doivent renforcer. Surtout antivisme routier, M. Gilles. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas seulement commencer à incriminer les chauffeurs et les consorts. Nous le faisons aussi, nous avons un problème sérieux, puisque nous ne savons pas comment respecter les codes de la route, M. Gilles. C'est ainsi que je demanderai au ministre de ne pas s'arrêter seulement là-bas. Pour ce qui est des bus, il doit mettre les garde-fous pour le bon déroulement de ces bus-là, puisque quand même le nombre qu'on a amené, c'est suffisant. Ça peut quand même pallier au problème de transport. Maintenant, c'est les mesures d'encadrement et de suivi qui doivent être renforcées par le ministère de tutelle, M. Gilles.
Donc, les mesures d'encadrement, pour vous, le bilan est relativement positif. Mais ce qui pose problème, ce sont des mesures d'encadrement pour permettre à ce que, de part et d'autre, tous les usagers soient bien sensibilisés, notamment même les piétons et aussi les conducteurs. Merci beaucoup, Maître Massaka. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, ainsi que tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le groupe d'enfants.
Voilà, Mathieu, quel est le bilan à faire à mi-parcours par rapport à toutes ces réformes initié par le ministère des Transports, ministère national des Transports et voies des communications?
Bon, d'abord, en ce qui me concerne, je crois que si le but que le gouvernement va mettre au transport de la population, tant que les normes en matière routière ne seront pas respectées, on va toujours enregistrer les accidents routiers. Les routes de notre pays, plusieurs d'entre elles sont plus dangereuses. Les accidents font des victimes en milliers chaque année. Jusqu'à ce jour, même au moment où nous sommes en train de faire ce débat avec vos auditeurs, malgré la campagne de sensibilisation, avait lancé le ministre des Transports à destination de tous les usagers de la route, d'après les statistiques, les chiffres sont plus lourds depuis 2011 jusqu'à ce jour, où les causes de ces décès sont partagées d'après moi, surtout la plus grande responsabilité est attribuée à notre gouvernement. D'abord, les policiers de circulation routière. Ils ne sont pas bien payés. Ils travaillent pour manger les cigarettes. Comment parvenir-t-il à bien faire leur travail? Il faut bien former les policiers de circulation routière. Et la cause des plusieurs d'entre eux ne les connaissent pas. Tracer des marquages au sol pour viser les conducteurs. Mettre des panneaux de signalisation comme dans d'autres pays où nous avons réhabilité. Ils doivent être fixes dans les contrôles de permis de conduire et contrôles techniques. Il y a plusieurs morts qui provoquent des accidents routiers, surtout aussi aux conducteurs. L'usage du téléphone cellulaire au volant, l'ivresse qui détourne l'attention, sans oublier la vitesse qui augmente les distances de freinage. Moi, je crois que le bilan est exorbitant. À chaque jour qui passe, on rajoute des accidents de circulation routière. La balle, d'après moi, est au sein du gouvernement qui gère le quotidien de prendre toute la disposition ici pour cesser immédiatement en fait ce genre de morts subites dans notre pays nécessaire.
Voilà, donc pour vous, Mathieu, la responsabilité incombe au gouvernement. Il faut noter également que le ministre des Transports et aussi le gouvernement dans son ensemble avait initié en fait de cette campagne de cyclisme sur la route, question d'impliquer tout le monde dans la gestion de nos routes. Théodore est à Mbujimayi. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez la parole, Théodore.
Merci pour la parole. Je suis pour la réforme dans ce domaine des transports routiers, pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Tous les réseaux routiers de la République démocratique du Congo sont dans un état futé, qu'il s'agisse des routes nationales, de la voirie urbaine et des voies de desserte agricole. Cet état de fait s'explique du fait que le manque d'entretien de l'ouvrage existant, du non-respect des normes urbanistiques, du vieillissement même des routes, l'absence de l'ouvrage de drainage adéquat, et du non-décaissement des crédits prévus au budget d'investissement et la non-application de la réglementation de la situation routière. C'est ainsi que, pour moi, l'action à préconiser après ces réformes ne serait que la restauration du système de cantonnage par la méthode IMO, construction des ouvrages de drainage sur les réseaux de routes et de voiries, réhabilitation des artères principales revêtues de voiries urbaines, planification du financement et de la maintenance des ouvrages existants, l'aménagement des routes selon les techniques fiables et l'éducation de la population sur les techniques d'entretien des routes. Avec qu'on peut amener des bus, 300, c'est pas qu'une certaine seulement. Mais est-ce que ces bus seront envoyés comme ils sont en Mouimaï? Je ne pense pas. On doit penser à tout le monde, on doit penser à toutes les provinces. Voilà été ma préoccupation.
Merci beaucoup, Théodore. 081-890-63-15 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous avons dans ce studio Henri Bissoumou, qui est membre de l'ASECO. L'ASECO et l'APVECO, disons, ont eu à organiser une rencontre avec le représentant du ministère des Transports et Voies de Communication, dans le cadre toujours de la lutte contre les accidents qu'on enregistre à longueur de journée sur des routes, semble-t-il, nos routes sont insécurisées. Henri Bissoumou, bonjour et merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Voilà, d'abord, on va réagir par rapport à cette première série des auditeurs. Oui. Vous avez suivi les uns les autres, comment vous réagissez?
Bah, ils ont complètement raison, parce que là, ça fait pratiquement plus d'une décennie que le gouvernement est interpellé, notamment par l'Organisation mondiale de santé. Déjà en 2004, on avait interpellé le gouvernement congolais pour dire que le taux de mortalité dû aux accidents de circulation risquait de devenir le troisième fléau après le sida. On a constaté que la Kinshasa, une mégapole, effectivement, il n'y a pas de panneaux de signalisation, il n'y en avait pas. Et qu'à chaque jour qui se passait, on enregistrait des morts et des morts sans pour autant que quelqu'un ne réagisse. Ici, nous saluons l'initiative du président de la République qui a pensé à réhabiliter les routes, mais je pense que c'est pas suffisant. On est en train de dépenser beaucoup d'argent pour réhabiliter les routes. Je pense que c'est le même montant qu'on doit mettre pour réhabiliter l'homme chauffeur. Ici, les chauffeurs ont appris
pour réhabiliter l'homme chauffeur.
Le chauffeur a appris à conduire dans l'état. Hein, le receveur et le chauffeur, ils se sont. Le chauffeur est pratiquement celui qui entraîne le receveur, et celui-là, une personne qui n'a jamais été dans une auto-école, il vient auprès de l'autorité qui lui remet un permis de conduire. Vous pensez à tel monsieur devant les grandes artères de la ville de Kinshasa, il ne peut que devenir un assassin.
Le ministre l'a reconnu lors de la rencontre avec la SECO et la DEVECO que devant plus de 70% des causes des accidents du trafic routier relèvent du conducteur, et il a même ciblé 7 groupes qu'il a qualifié de névralgiques qui ont en commun une caractéristique particulière, donc l'homme, l'être humain qui est capable par son comportement d'être un bon conducteur, l'a dit sur le finance, préservant et respectant la vie de ses semblables ou alors d'être un chauffard. Donc il a comparé le bon conducteur à un chauffeur. Alors tout ça, ça passe par la réglementation. Vous avez suivi un auditeur qui dit la responsabilité incombe à l'État. Parce que l'octroi, le permis de conduire et aussi les contrôles techniques aussi de véhicules, parce que le conducteur ne doit pas. Il peut être un bon chauffeur, mais s'il a une caisse qui n'est pas en bon état, ça peut être aussi la cause de certains accidents.
Le ministre a raison. Il ne suffit pas seulement de condamner. Il faut aussi mettre les structures qui puissent permettre à ce que nous puissions voir qu'on est en train d'améliorer. On a sensibilisé. Est-ce que l'homme chauffeur a été suffisamment sensibilisé? Est-ce que ce monsieur-là comprend le message? Nous avons des gens ici qui ne comprennent plus jamais le message. Il faut passer par la répression. Ça, il faut le faire.
Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de la SECO pour relayer ces messages auprès des conducteurs? Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette campagne de civilisation sur la route où on a dû déceler 10 fléaux. Il était question de vulgariser ces 10 fléaux auprès des conducteurs et des chauffeurs.
C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas seulement se limiter à la vulgarisation. Vous savez, la Bible dit lorsque une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du fils de l'homme s'est rempli en eux du désir de faire le mal. Ce n'est pas à la SECO de réprimer. La police est là pour faire son travail. Est-ce que cette police-là a tous les moyens possibles pour réprimer? Je ne pense pas. Vous êtes là, vous regardez ce qui se passe sur la voie. La police n'a rien qui puisse lui permettre d'intimider cet homme chauffeur-là. Et comme l'homme chauffeur est laissé à son propre compte, vous comprenez, nous pouvons dire, mais nous n'avons pas la force de réprimer. Là, c'est une as belle. Nous passons. Aujourd'hui, vous m'avez appelé, c'est ce que je suis en train de faire. Je peux parler du matin au soir, mais lorsqu'il n'y a pas une répression qui se...
Il faut que tous ceux qui sont impliqués dans la gestion, dans la régulation de la sécurité routière, qu'ils puissent, au fait, chacun à son niveau,
faire son travail. Oui, moi, je peux faire mon travail. Les policiers, tout le monde, la CNPR, le ministère, tous. On doit commencer en amont. Pour arriver en aval. On ne peut pas faire le travail en aval alors qu'en amont.
Voilà, avant de venir à vous, Henri Lissimou, pour expliquer un peu les fléaux qui rongent en fait nos routes, nous allons prendre une deuxième série des auditeurs. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également participer à cette émission en composant bien entendu le 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Jean, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jean, bonjour, parole aux auditeurs.
Vous avez la parole, Jean.
Ok, merci beaucoup pour avoir m'accordé la parole. Alors, j'ai quelque chose de regret. Premièrement, parce que le bus que le gouvernement a reçu, c'est très bien, nous félicitons, mais mon inquiétude est que pourquoi doit-on attendre le 30 juin pour que ce bus soit mis en circulation? Alors que nous continuons à regretter chaque jour les morts. Nous remarquons aussi que l'un des problèmes, c'est des signalisations. Même si nous laissons les problèmes de faire des signalisations parce qu'il n'y a pas de courant, ça nous pouvons comprendre ça, c'est un problème de la semaine. mais au niveau des boulevards, des grands boulevards, ou même des sites publics qu'on a réhabilité. Les marches piétons qu'on a. Vous avez remarqué que dans la pluie, c'est très simple.
Voilà, Jean, nous avons des petits soucis là où vous êtes, vous sentez vraiment entrecoupé. Si vous pouvez peut-être changer de position, on reviendra à vous, hein, Jean. C'est temps de prendre d'abord Michel qui est à Matadi. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Michel, vous êtes avec nous?
Oui, oui, je vous suis.
Michel, vous avez la parole.
Oui, bon, j'ai dit, je ne sais pas si au niveau de qui, mais il y a un impact positif. Mais ici, dans la province du Bas-Congo, on ne sent rien, on ne sent rien. Mais les réformes n'ont pas un impact positif.
Mmh.
Parce qu'il n'y a pas une étude minutieuse. Vous savez seulement la nuit du samedi à dimanche, de la semaine passée, la province du Bas-Congo a été une fois encore en deuil. Il y a un long véhicule qui transportait des sacs de ciment. Et au-dessus de ces sacs de ciment, il y avait plein de Congolais qui partaient pour Loufou. Or, dans ces véhicules, juste à la portière, vous verrez un écriteau qui dit « passager interdit ». Or, lorsque ces passagers prennent place sur des agents publics, où il y a même des agents de la police routière, à part ça, vous verrez parmi ces commerçants, des diplômés, des licenciés, qui exercent ces métiers par manque d'emploi. Et comme les gens ne savent plus quoi faire, ils empruntent n'importe quelle voie, des voies qui les prédestinent à la mort. Donc, ils doivent nourrir des familles et vous les verrez au-dessus des sacs. Aujourd'hui, tous les jeunes qui n'ont pas un niveau, vous les verrez à prendre la moto qu'on appelle les Ouïwa, les taxis, pour essayer de vivre. Et vous verrez ils vont apprendre cela dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours, vous les verrez, une formation de 2 ou 3 jours, vous les verrez emprunter déjà la voie publique, avec la moto ou les taxis. Donc, les agents de la police ne contrôlent pas. Ici, à Matadi, on ne sent rien. Et chaque fois qu'ils contrôlent, il suffit que vous puissiez verser même 1 000 fois, 2 000 fois, on vous laisse passer. Donc, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai dit, bon, si ces réformes, ça doit amener aux autorités de réfléchir. Ils ont la tête, ils doivent réfléchir. Tout ça, c'est parce que chaque fois, nous disons, payez bien les gens. Lorsque vous payez bien les gens, il y a beaucoup de gens
qui
vous payez. Ils ne corrompent parce qu'ils ne sont pas en ordre avec les documents.
Oui. Alors, encore plus loin, Michel, si nous prenons le premier fléau tel que le ministère des Transports l'a décelé, le non-respect de la signalisation routière, ça n'a rien à voir avec les salaires. Un conducteur qui ne respecte pas la signalisation routière. Et le deuxième fléau, les dépassements dangereux, ça n'a rien à voir avec les paiements de salaire.
Non, s'il vous plaît, je dis que si. Parce que pour qu'il y ait le respect des normes, il y a des agents de la police routière. Même s'il y a des signaux, parfois, nous sommes ici à Matadi, vers 24h15, il y a des signaux, mais ils sont toujours en panne. Et lorsque ils sont toujours en panne, il y a des policiers qui doivent venir mettre un peu de l'ordre. Mais ces gens-là souffrent, parce qu'ils doivent passer toute leur journée là-bas, et à la fin, ils doivent rentrer à la maison. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. S'ils ne reçoivent rien, jamais ils vont encore nourrir sa famille. Donc tout ça, ça nécessitera qu'il est tenu là. Tout ce qui est corrompu d'une manière ou d'une autre, pour qu'il puisse venir aussi à sa famille. C'est ça le problème.
Voilà, donc il faut vraiment tenir compte de l'homme. L'homme qui est en train de prévenir et de réprimer la délinquance
routière,
et aussi l'homme qui est en train d'utiliser la route.
Avec les non-véhicules,
oui.
Ce sont les véhicules des entreprises. Lorsque vous verrez ces véhicules-là, vous verrez parfois. Il y a des sacs de ciment, parfois il y a des séchards, des cartons qui sont là, qui amènent. Ce sont les véhicules qui sont chargés à transporter des biens et non pas des personnes.
Mm-hmm.
Non pas des personnes. Parce que bien et tout même si les véhicules là, passagers interdits. Et lorsque ces véhicules passent, c'est au vie et au signe d'autorité. Ils le voient et parfois ils le font aussi, ils le voient au-dessus là.
Voilà, merci. Merci beaucoup Michel, hein. Merci beaucoup d'avoir appelé et aussi et d'avoir contribué à cette émission. Nous prenons Franck qui est à Vienne, en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mes auditeurs et à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Franck, vous avez suivi vos prédécesseurs. À votre tour, est-ce que vous avez un bilan à faire par rapport à toutes ces réformes initiées par le ministère des Transports et Voies de Communication pour arriver à sécuriser nos routes?
Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que ceux qui habitent l'extérieur du pays ne maîtrisent pas tout ce qui se passe sur place. Moi, je vais décrire des réalités et des choses que je vis et vois moi-même lors de mes séjours au pays. Tenez bien, en 2010, j'ai effectué 3 voyages à bord de bus. Le premier, je suis parti de la ville de Kinshasa pour Bandundu-Ville. Je suis rentré par avion de Kour, je suis encore parti sur Kikouk, j'ai fait un aller-retour avec le bus. En 2011, j'étais là, j'ai fait le déplacement avec le bus et aussi encore en 2012. Qu'est-ce que j'ai constaté personnellement, le premier constat, pour le bus qui fait des navettes Kinshasa, Bandundu ou bien Kinshasa, Kikouk, Kinshasa, souvent on roule la nuit. Et je me suis rendu compte que c'est souvent le même chauffeur qui est au volant. On part vers 19h, 20h, ou parfois 18h, jusqu'à 7h, 8h, c'est le même chauffeur. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, on ne respecte pas non plus le nombre de places. En 2010, en 2011, par exemple, j'ai vu comment on a embarqué des 10 enfants qui allaient à l'école comme des sacs. Et je me demande si le nombre de places à bord de ce bus sont respectées, parce que quelquefois je vois sur le couloir réservé pour le déplacement des passagers, il y a des sacs de ciment, il y a des sacs de manioc, il y a des sacs de maïs, il y a des choses qu'on met là-bas, et parfois on ne sait pas, le bus a la capacité d'embarquer combien de passagers. Troisième constat, mais parfois, lors de l'embarcation, on se retrouve avec 3 à 4 listes. Chaque chargeur s'amène avec sa liste et il a des gens qu'il tient absolument à faire voyager. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pour un voyage de Kinshasa jusqu'à Kikouk, c'est quand même 500 km. Et 500 km, c'est pas 2 km. Et si on doit laisser la responsabilité à un chauffeur, parfois, à rouler la nuit à bord de bus qui n'a pas été correctement entretenu, ça c'est quand même dangereux. Mmh. En 2012, j'étais là moi-même, j'ai vu le bus à bord duquel je prenais place rentrer du Bas-Congo. Et aussitôt arrivé, sans aucun entretien, on commençait à nous embarquer. Et arrivé vers le pont Maïndombe, il y avait des pannes de prise d'air. Et je crois que de ce côté-là, quand on parle du civisme, du transport, je crois qu'on ne doit pas seulement se limiter à la ville de Kinshasa. Parce que le déplacement en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est un peu de deux. Quand vous nous parlez de policiers, de routiers, quand on est dans la ville de Kinshasa, on le voit. Ils font correctement leur travail avec des poignées de main en recevant 500 francs, 200 francs ou 300 francs. Peu importe la qualité de l'argent, peu importe l'état moral, l'état psychologique du chauffeur.
Oui, Franck, parce que là, parmi les 10 fléaux cités par le ministère du Transport, disons, par rapport aux pratiques, aux mauvaises pratiques, initiées par les policiers de circulation routière, et qui ont de la charge de la prévention et la répression de la délinquance routière, c'est vrai que le ministère a décrié ces 10 fléaux que vous venez de citer. Dans l'état des lieux est fait. Maintenant, est-ce que les mesures qui ont été prises par le ministère de tutelle, vous pensez que ça pourrait avoir l'effet dans les jours à venir?
Oui, monsieur Jurès. Les lois sont faites pour encadrer la vie des citoyens, mais encore faut-il que toutes ces lois puissent être correctement appliquées. Au Congo, c'est pas moi qui suis le premier à le dire, nous le savons tous. Au Congo, nous avons de très bonnes lois, mais qui ne sont pas correctement appliquées. C'est ça notre grand problème. Le notre souhait, c'est de voir toutes ces lois être appliquées. Il faut que toutes ces mesures puissent être accompagnées. Mais quand on laisse des gens qui sont mal payés en cours de route, mais ils travaillent là pour gagner aussi quelque chose à subvenir à leur famille. Donc, ce serait notre souhait. Mais encore, c'est que l'État se montre aussi responsable, que l'État se mette à sa place, que l'État tienne compte de toutes ces normes, de toutes ces obligations qui reviennent à ces obligations régaliennes. Sinon, ça va devenir des intentions. On a dit ceci, on doit faire cela, mais sur le plan pratique, rien ne se sent, rien ne se voit, rien ne se vit. Et notre souhait, c'est de voir toutes ces mesures être appliquées. Moi, je venais de cela pour la dernière fois. En octobre, pour le moment, quand je serai là, je verrai, et peut-être, pour les prochaines émissions, je pourrai aussi encore remettre mon collègue.
Oui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. Jean Coulézi, bonjour.
C'est Jean Dambos, je suis sûr qu'on le dit. Je vous salue et je salue aussi votre invité.
Merci beaucoup, Jean.
J'ai deux préoccupations. Par rapport à toutes ces réformes, pas ici à Colombie, je suis un peu pessimiste en croire à ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, premièrement, je voudrais d'abord explorer les mauvais comportements qu'affichent les chauffeurs ici chez nous à Colombie. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des certains chauffeurs, lorsqu'on on peut l'attraper par un PCR, un policier de sécurité routière, en train de faire une infraction. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Vous allez écouter ce chauffeur dire que où est-ce que tu peux m'amener? Ces véhicules, les bourrés à papa, comme on les entend parler, les motocas et à papa, comme ils disent ici chez nous à Colombie. C'est-à-dire, effectivement, ces chauffeurs sont devenus des orgueilleux. Ils ne sont même pas capables de respecter les normes établies par l'État pour respecter la sécurité.
Donc, vous dites le non-respect de la signalisation, les dépassements dangereux, et le stationnement anarchique, tout ça, ça conduit dans des fléaux et le non-respect de la limitation même de vitesse.
Voilà, et donc, ils ne sont même pas préoccupés. Même puisque chaque fois vous venez entendre dire Iboria papa, Iboria maman, Iboria ceci, cela, alors on sait qui peut respecter ou soit qui peut rester en ordre. À part ça, nous déplorons aussi le service de contrôle technique. Ici chez nous en Colombie, je vous dis la vérité, nous avons déploré, en commençant en 2012 jusqu'ici, à mois de mai 2013. Nous avons déploré plusieurs accidents dans nos routes, que ce soit dans nos routes nationales et locales. Pourquoi j'ai dit ça? Nous avons des véhicules de marque Takwa. Ces véhicules viennent, la plupart de la Tanzanie. Ces véhicules ont caché beaucoup d'accidents. Ils sont déjà déborcelés, qui ne respectent même pas les normes techniques. Mais quand ça vient ici, on les accepte facilement et ça roule. Demandez combien de morts qu'on a eu ici chez nous à cause de lui. En passant ces bus qui ne respectent pas la norme.
Voilà, merci beaucoup, Jean Dambos, merci beaucoup d'avoir appelé. Nous revenons ici à Kinshasa pour retrouver Jean Sengui. Jean, vous êtes à nouveau avec nous?
Ok, oui, bonjour Radio Capture, bonjour par nos auditeurs.
Voilà, tout à
l'heure. Alors, je vais juste répondre à ce que disait Jean au début, que j'avais une inquiétude. Selon laquelle, pourquoi on va attendre la mise en circulation
du 30 juin.
Au 30 juin 2013? Est-ce pour la formation des chauffeurs qui vont conduire ces véhicules ou bien pour les agents? Si c'est comme ce cas-là, bon, bien merci.
Bon, je ne sais pas si notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, mais selon nos informations, la campagne de civisme sur la route se poursuit. Hein. Je crois que ça pourrait arrêter d'un moment à l'autre. Et puis, bon, je crois, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait mettre en circulation la bus. Mais les détails avec notre invité tout à l'heure, Jean.
Et allez, ça va. Mais le problème, c'est quoi? Même quand vous dites que la campagne de sensibilisation pour les chauffeurs, il dit à quel type de chauffeurs on s'adresse et à quel moment? Parce que nous avons soulevé déjà notre foi aussi et nous constatons que. Il y a quelqu'un qui est avec la médiation de quelque part au coin de la rue, qui est en train de crier, le chauffeur ne doit pas boire, il faut respecter le marché, il faut faire ceci. C'est ça la sensibilisation. Moi, j'avais dit l'autre fois que
si on peut être organisé de cette façon ici, il y a les syndicats de chauffeurs qui sont ici à Kinshasa. On peut réunir les chauffeurs partant des quartiers ou des districts. On dit telle date, on va sensibiliser les chauffeurs de tel coin. C'est-à-dire, ces chauffeurs-là ne doivent pas sortir et donc on doit les former sur le civisme routier. Mais si on reste seulement à parler comme ça, campagne, alors que les concernés sont toujours et déjà des voleurs volants, je regrette ce qui parle à moi, comment payer. On continue à ne pas respecter les départements toujours brûlés, ainsi de suite. Mais je voulais souligner aussi.
Oui,
les marches piétons qu'on va tracer, nous prenons la partie seulement de l'Est, de l'Ivoire, Lumumba, de l'aéroport jusqu'à, même, comment on appelle, jusqu'à le 24 novembre. Vous avez remarqué qu'il faut délimiter, par exemple, dans la plupart d'endroits, il y a la marche piéton, c'est que ça fait. Et il n'y a pas une équipe pour renouveler ce tracé-là. Et les gens ont du mal pour tracer.
Merci beaucoup, Jean, d'avoir appelé de Kinshasa. Et nous vous rappelons que c'est vrai que le ministère de Transport et Voies de Communication a pu organiser une rencontre avec la SECO et la PVCO. C'est toujours dans les sens de pouvoir sensibiliser les concernés, donc les conducteurs et les chauffeurs. Merci beaucoup. 081 890 6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Henri de Sembou, en tout cas la plupart des auditeurs sont revenus sur, en tout cas ils ont parlé de tous ces fléaux relevés par le ministère des Transports, le non-respect de la signalisation routière, le dépassement dangereux, le stationnement anarchique, le non-respect de la limitation de vitesse avec les chauffeurs, l'usage de faux permis de conduire, la conduite sur les trottoirs, le certain fléau, l'usage d'alcool et ou d'autres stupéfiants au volant, l'usage du téléphone au volant et la pratique céder le volant, donc ça c'est le deuxième fléau, et puis enfin ce que nous appelons les diverses pratiques dangereuses que nous connaissons dans donc comment vous réagissez?
Mais non, monsieur Gire, ne pensez pas que le ministre s'est levé un matin comme ça, il a commencé à condamner. Cela veut dire que nous avons été associés. Nous sommes un syndicat, nous sommes l'association de chauffeurs, nous savons ce qui se passe. Moi, je suis professionnel depuis 78. Moi, j'ai commencé à faire le taxi en 78. Ce qui s'est passé en 78, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a laissé la profession du chauffeur à n'importe qui.
Devenir
chauffeur qui le veut.
C'est anormal.
Mais comment donc? Je suis là pour condamner ce que le chauffeur est en train de faire. C'est l'homme chauffeur qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de connaître comme dégradation par rapport
aux désastres
routiers. C'est l'homme chauffeur qui est l'élément moteur de tout ce que nous sommes en train de connaître. La route, elle est là, elle est bonne. Il suffit seulement de respecter les normes, même naturellement comme ça. On sait que nous, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Il faudrait pas seulement qu'il y ait un agent derrière pour que vous puissiez respecter.
Alors, je sais s'il faut faire un bilan, vous, personnellement, au niveau de la FECO, le bilan sur toutes les réformes initiées par le ministère des Transports.
Non, mais jusque-là, moi, je vous dirais qu'on n'a pas encore.
Il y a eu campagne de civisme sur la route, et il y a eu l'assainissement des secteurs routiers,
oui.
Où il fallait dégager, bon, bientôt là on va construire les aires de stationnement, et même les arrêts de bus.
C'est pourquoi j'ai dit que je suis en train de féliciter les efforts que est en train de fournir le président de la République par rapport à la modernisation de nos routes. Mais il faudrait aussi que nous, qui sommes là, nous puissions l'accompagner. Monsieur JRS, il faut seulement aller sur Éthiopie, vous allez voir. L'avenir Éthiopie est transformé en marché. Vous êtes sans ignorer que nous avons condamné cela. Allez sur Rond-Point Gaba. Est-ce que c'est pensable lorsque vous voyez des mamans étaler à même le sol, à côté des artères, les aliments, tout ça. Mais au vu et aussi de tout le monde. Il ne suffit pas seulement d'élaborer...
Ce n'est pas à l'Éthiopie de faire cette l'armée, non, c'est la police. Les bourgmestres doivent suivre. La police doit suivre. C'est tout ce service-là. Donc, il faudrait maintenant mettre un budget conséquent pour permettre à ce que nous puissions assainir le secteur. Nous étions dans les états généraux de la ville de Kinshasa. On en a parlé dans les états généraux. Lorsque le gouverneur Kimbuta a pris ses fonctions, il nous a invités dans les états généraux à Maputo. Nous avons décrié tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a fait l'être morte. Le ministre est venu, il est animé de bonne volonté. Vous pouvez savoir que le ministre a donné des billets pour que les membres de la FESCO aillent jusqu'en Chine, hein, voir chercher des bus qui soient...
La FESCO, c'est l'association
des propriétaires des véhicules dont moi aussi je fais partie. Donc je suis là, étant chauffeur, je suis chauffeur étant propriétaire aussi. Je suis dans la structure. Mais il y a
les
Ils sont allés à Lubumbashi pour voir les véhicules que l'État va mettre à la disposition de la population, parce que tel que l'avait prôné le Premier ministre, il veut un partenariat public-privé. C'est dans ce cadre-là que le président de la PETCO ainsi qu'une délégation est allé en Chine pour voir comment remplacer les 207 par ces bus-là qui sont en très bon état. Mais maintenant,
c'est une bonne intention.
De tous les ministres qui se sont succédés au ministère des Transports et Voies de Communication, j'ai vu ce ministre ici, Kalumba, qui est à côté de... Hein, il est à côté de nous.
La population veut du concret.
Remarque que les fléaux continuent. Ce que je pense, c'est que le ministre doit mettre tout le monde... dans ce travail-là. Il ne faudrait pas qu'il soit là dans son ministère en train d'élaborer des programmes et, en définitive, on ne sent pas ça sur terrain. Il faut que la PCR soit là, il faut mettre les moyens pour que la PCR, la CECO, la CNPR, tous en synergie, nous puissions travailler pour qu'on sente quelque chose sur terrain. Voilà comment est en train de décrire, le monsieur est en train de parler des gens qui sont sur les voies publiques avec les mégaphones en train de dire « Qu'est-ce que vous croyez que les chauffeurs vont faire par rapport à ça ?» Il ne va pas suivre, ce sont des têtus. Ce sont des têtus.
Moi, c'est des têtus, c'est celui qui l'approche. On peut être sur le banc de l'école, mais on peut être sur le banc de l'école, on n'aura pratiquement pas, on peut être élève sur le banc de l'école, mais on ne peut pas avoir le même résultat.
Il faut savoir à quel type de gens on est en train de s'adresser. Et il faut savoir cela. Ça, c'est très important. Si vous allez ailleurs, vous allez remarquer les gens qui ont été déjà sensibilisés, lorsque vous leur faites ça, ils comprennent directement. Mais ici, c'est comme si vous êtes en train de crier dans le désert.
081-890-6315, nous prenons Olivier qui est à Kikui, qui est docteur Richard à Kinshasa et Albert à Kananga. Olivier, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Olivier.
Oui, voilà. Moi, je vais intervenir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le gouvernement. Et je pense que du côté du gouvernement, il y a beaucoup de problèmes. Alors, la campagne, c'est bien. Mais vous savez ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de campagne, il y a une information continue. Et cette information continue se fait à travers des réseaux d'informations qui sont permanents. Alors chez nous, c'est ça le problème. On fait une campagne aujourd'hui, la même façon, on n'a plus de budget, on ne fait pas, et puis ça s'arrête. Donc il faut que l'information sur le code de la route circule à permanence. Et ça va des écoles, dans la rue, à la télévision. Et ça se passe comme ça à permanence. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Et les gens grandissent déjà avec cette information sur le code de la route. Chez nous, c'est une campagne. L'année prochaine, il n'y a plus rien. Les enfants de l'année prochaine ne sauront rien. Donc voilà, ça, c'est une de nos difficultés que nous devons résoudre. Et là, ça demande quoi? Ça demande que le gouvernement agisse de façon globale. On ne doit pas laisser le travail au ministère de communication. Il réfléchit, dit voilà, le budget nous permet de faire ceci pendant une semaine. Ça, c'est vraiment un travail que j'appelle, excusez-moi le terme, un travail de mode. On doit arrêter avec ce genre de travail. Il faut un travail continu. Ça, c'est une première chose. Et toujours du côté du gouvernement, vous allez remarquer qu'il y a des problèmes, même du côté des policiers. Les policiers ne sont pas suffisamment formés. Moi, j'en connais qui sont sur la route. Ils ne connaissent pas le code de la route. Et ça, ce n'est pas, je ne suis pas le premier à vous dire. Il y en a, ils sont là. En dehors de ce déficit dans le code de la route, il y a évidemment le comportement qu'on a déjà décrié. Ça, je n'y reviens pas.
Mm-hmm.
Il y a toujours du côté du gouvernement, le code de route, je prends l'exemple du déficit de CGR. Nous avons un déficit, on semble laisser le travail de route urbaine à la FECO. Tu peux t'imaginer, vous trouvez deux jeunes gens avec des tabliers sur le colonel qui a Seco en train de mettre la terre dans les trous. Et c'est eux, ils mettent une manière, ils font de ses enfants, et ça se fait au vu et aussi de l'autorité publique. Donc, c'est des choses inimaginables.
Donc, c'est comme ça que les choses se passent à Kikwit.
C'est ça qui se passe à Kikwit.
Il y a Seco à la charge de
d'arranger
les routes.
Je n'ai jamais vu ça.
De réhabiliter.
Alors, ils font ça, et ils doivent déranger d'abord la situation, parce qu'ils mettent des barrières, il faut gagner, et ça se fait. Et vous avez une autorité qui passe par là, l'autorité donne 200 francs, donc le sourire, je dis le pays est remboursé, et voilà donc. Et nous avons le chargement, vous venez à Kikwit, vous voyez les véhicules qui sont Kikwit Mosango, Kikwit Matimamumba, Kikwit Kongo. Je vous donne au cas, vous avez une voiture Peugeot qui prend 15 personnes, s'il vous plaît. 15 personnes sans compter la marchandise. Alors, vous avez le châssis qui est par terre, mais ça doit bouger. Et ça passe les barrières de police sans problème. Alors, quand c'est le coup qui a fait un accident, ça fait tout de suite 14 morts. Et ça, on ne va pas. Donc, nous avons le cas de route, nous avons le conducteur avec lequel les gens voyagent, le chargement, donc c'est un problème très très sérieux. Alors, ça, c'est du côté du gouvernement. Je ne veux pas parler de toutes les rechanges, de toutes les structures. C'est ça que c'est un truc sérieux de ce sujet, aller dans toutes les mesures de prendre de toutes les rechanges. Les pièces qui nous sont vendues aujourd'hui sont de la canne.
Voilà, donc si je comprends bien, Olivier, vous souscrivez votre intervention donc en deux volets, du côté du gouvernement et aussi du côté des conducteurs, de la population, voilà. Alors là, nous retenons une chose, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait, que chacun à son niveau puisse faire son travail pour arriver à sécuriser nos routes, sinon bon, on continuera à compter des morts hein, sur nos routes. Merci beaucoup Olivier d'avoir appelé. Nous revenons ici à Kinshasa avec Dr Richard qui est à Kinshasa. Docteur, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à l'invité et à tout le monde. Voici ma modeste contribution.
Oui.
Premièrement, il faut restituer à l'histoire les lettres de noblesse. Le gouvernement ne s'est pas réveillé un matin pour dire « nous achetons le bus ». Le gouvernement était acculé par la grève de la SECO que je salue et applaudis. S'il n'y avait pas cette grève, le gouvernement n'allait pas parler des bus. Deuxièmement, la vérité se trouve ailleurs dans le bilan que nous sommes en train de faire. Vous savez que le ministre du Transport a parlé à la RFI dans une émission parce que on a trouvé que la RDC, si elle n'est pas la première en Afrique, peut-être dans le monde, dans les accidents d'avion et de route. Deuxièmement, les 207 n'ont de problème qu'ici au Congo, pas ailleurs. Pourquoi? Alors, parce que notre ami de la SECO a parlé, par exemple, le marché des femmes métal, patati patata, c'est pour dire que nous disons à la SECO, si aujourd'hui, s'il y a des médecins qui ne sont pas bons dans la pratique médicale, c'est la faute de la faculté et de l'ordre de médecins. Donc, la SECO ne peut pas se dérober pour dire, on a laissé n'importe qui prendre le volant, tout ça. C'est la faiblesse de la SECO. La SECO, ce sont les chauffeurs réunis autour de la sécurité routière, qui est aussi mon domaine de formation. J'ai fait la gestion des urgences et des catastrophes, même pour la sécurité routière. Donc, ils ont une faiblesse qu'il faut aussi décrier. Ce sont des buveurs, des danseurs, des mangeurs, ils ne réfléchissent pas pour le lendemain. En ce qui concerne nos routes, j'ai été étonné de voir en moins d'un an qu'on change de type de séparateur. Pourquoi? C'est la modernité aveugle. On veut prendre le modernisme sans que le peuple soit à la hauteur de maîtriser ça. Il faut rentrer à la coutume ancienne qui ne donnait pas beaucoup d'accidents au pays sur les voies routières. Voilà ma modeste contribution.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Albert, vous êtes à Kananga. Bonjour. Voilà, on va revenir à Albert, mais parce qu'il y a des questions aussi directes qui concernent aussi la SECO. La SECO doit avoir une part de responsabilité, surtout autour du comportement civique des usagers des routes. Là, je parle des conducteurs et certains chauffeurs.
Tout à fait. Monsieur Gire, nous ne pouvons pas nous dérober. Lorsqu'il y a des insuffisances au niveau de la structure, nous devons nous remettre en cause.
effectivement, ici, au sein de la SECO aussi, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a des gens qui doivent, en principe, gérer un grand nombre de chauffeurs, mais qui sont pris parmi les non-chauffeurs. Ça, ça pose problème. Vous pouvez vous imaginer qu'ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons comme vice-président provincial de la ville de Kinshasa un non-chauffeur. Ça veut dire que il a été dans la structure, j'étais comme un cheveu dans la soupe. C'est compliqué. Comment un monsieur comme ça peut vous rendre service lorsqu'il ne connaît, il ne sait même pas démarrer un véhicule? C'est lui qui est le vice-président de l'ASECO dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire que ça pose problème. Ça devient une histoire de famille.
Comment pensons le statut de l'ASECO, hein? C'est vrai que ce n'est pas le débat du jour.
Moi, c'est juste une parenthèse.
Comment vous organisez les assemblées électives, par
exemple? Je vous le dis en toute sincérité, des mascarades.
Voilà.
De la même manière que nous sommes en train de condamner les choses, nous devons aussi condamner.
Voilà. Autour de ça. Mais alors, on évolue un peu avec l'idée. Aujourd'hui, avec la réforme, c'est vrai, le séparateur, il y a quelqu'un qui vient de l'évoquer aussi. Il y a, en tout cas, on a senti qu'il y a quand même des initiatives. Il y a des soucis de changer les choses, de réduire en tout cas sensiblement les cas d'accidents sur les routes. Si nous voyons toutes ces mesures, notamment la campagne de cyclisme, et aussi la volonté de vouloir assainir les secteurs avec l'acquisition de près de 300 bus qui sont mise en circulation d'ici au 30 juin prochain. Donc on sait quand même qu'il y a une volonté, mais quelle sera la pesanteur qui pourrait empêcher ces actions d'aller de l'avant?
Mais le problème ici, c'est qu'on fait des choses sans pour autant s'en référer aux gens qui sont habilités à le faire. Vous avez ici dans la ville de Kinshasa BAU, un bureau d'études et d'aménagement urbain. Mais lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit consulter ces gens-là. On ne veut pas les consulter parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent pour
les bureaux là, existe encore.
Mais oui, ça existe, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas
opérationnel. Parce que ce n'est plus là d'ailleurs de ce bureau quand vous passez les
infrastructures. Mais justement parce qu'on ne veut pas les consulter, ces gens-là, pour fonctionner, il faut leur donner le moyen d'être consultés. C'est ça qui pose problème. Même ici, lorsqu'on veut réhabiliter les routes, il y a la SNPR qui est là. La SNPR a commencé à condamner depuis le début. Des travaux, on ne les a pas consultés. Même les marquages au sol, le président de la CNPR a commencé à condamner les marquages au sol. Vous avez la ligne continue du boulevard de la Gare Centrale jusqu'à Sabena. Où est-ce qu'on peut déposer les gens? Ça veut dire, lorsqu'il y a une ligne continue, les chauffeurs ne peuvent pas se bosser la ligne continue, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais où est-ce qu'on va déposer maintenant les clients? On n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi lorsqu'on a commencé l'affaire. Il faut d'abord commencer à étudier, dépenser les moyens pour les études, et lorsque vous allez commencer à faire les choses vont aller
voilà.
Lorsqu'on a mis les séparateurs là, j'avais condamné ces séparateurs là, j'ai dit les mamans ont commencé à chevaucher les séparateurs, c'est dangereux. J'ai dit, on doit mettre les blocs là pour permettre à ce que les gens ne puissent pas parce que nous avons une autre.
Oui, maintenant, avec le dur là, ça sera encore.
Mais ça commence, mais ça, il commence. Mais oui, il commence déjà à se chevaucher, à sauter dessus. Le passage pour piétons, vous allez voir, il y a la peinture est partie. Et voilà, sur le moment, lorsque les Chinois partiront, qu'est-ce qui va en devenir?
Voilà, nous allons poursuivre avec cette dernière série des auditeurs pour savoir un peu plus leur point de vue aussi sur cette différentes réformes et aussi dans les différentes réformes initiées par le ministère des Transports et Voies des Communications. Simba est chauffeur, il est à Kinshasa. Bonjour Simba. Simba, vous êtes avec nous? Voilà, on parle plutôt Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour. Vous avez la parole, Arsène.
Merci beaucoup. Mes prédécesseurs ont déjà vraiment bien parlé. Moi, je voudrais ceci. En bref, on ne peut pas parler de transport sans parler de route. On ne peut pas parler de route sans parler de chantier, sans parler de travaux publics. Donc moi, je préférerais dire, pour qu'on aille vers l'avant, sans trop faire de propagande pour le nouveau bus qu'on vient de recevoir, il faut qu'il y ait, par exemple, une conférence où nous trouvons le propriétaire des terres qui est le domaine foncier, où nous trouvons les travaux publics, ceux qui doivent aménager les routes, et nous trouvons la PNC qui doit utilisateur de la route. Donc, dans cette réunion-là, on peut trouver des solutions adéquate qui peut nous amener vers l'avant au lieu de faire des histoires juste momentanées pour faire une certaine publicité, une certaine propagande. Alors, moi je préférerais bien, à l'issue d'une conférence que le ministère du Transport peut organiser, je crois qu'il y aura des solutions. Voilà ma modeste conclusion d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Arsène. Étienne, vous êtes avec nous Étienne, vous êtes à Guémena?
Oui.
Voilà, vous avez la parole Étienne.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capri et ceux de Guémena en particulier. Ok, monsieur le journaliste, je voudrais dire ceci. Par rapport à cette sensibilisation initiée par le ministère de Transport et Droits de Communication, moi je pense à mon avis que aujourd'hui, à travers la République démocratique, les routes sont dans un état de délabrement sans avancée. Alors, pour cela, moi, je pense que cette campagne de sensibilisation, on devrait d'abord impliquer tous les usagers des routes, comme un auditeur venait de le dire là. Impliquer toute la chacun dans sa responsabilité, et cela permettrait à ce qu'on puisse vraiment régresser les routes. Mais une chose que.
Oui, Étienne, je crois que le ministère. À ce niveau, il faudrait que vous notiez que le ministère a fait ce travail, il a été chez les policiers, il a consulté la population, et puis, tout dernièrement, il a été avec la SECO, c'est-à-dire l'Association des chauffeurs du Congo, et la PVCO, l'Association des propriétaires des véhicules du Congo. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, le ministère a pu sensibiliser les uns et les autres, mais maintenant, nous voyons dans l'avenir, et comment chacun de nous, en ce qui les concerne, doit faire le travail pour arriver à sécuriser nos routes. Parce que là, on le sait, l'état des lieux est connu. C'est tous les fléaux, par exemple, qui rongent nos routes, les non-respects de la signalisation routière, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est ce que nous observons au quotidien, les dépassements dangereux avec les véhicules d'essence, les stationnements anarchiques, le non-respect de la limitation des vitesses, l'usage des faux permis de conduire, le sixième fléau qui parle de la conduite sur les trottoirs, et aussi l'usage d'alcool et ou d'autres stupéfiants au volant, ça c'est le septième fléau, et le huitième qui parle de l'usage du téléphone au volant, vous le savez. Et si vous êtes sur notre cieux, je crois que personne ne s'hazarde à parler au téléphone quand il est au volant. Et puis le neuvième fléau, la pratique, céder le volant. Donc, un véhicule qui vous appartient, vous cédez à un autre chauffeur. Et d'autres diverses pratiques dangereuses. Donc, je crois que les 10 fléaux sont connus qui font l'état des lieux de la sécurité sur la route. Et je crois qu'on va plus revenir sur ça. Mais de toute façon, que faire maintenant pour arriver à capitaliser ces réformes?
Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a pour capitaliser les réformes? Moi, je pense que, d'abord, sur les 10 fléaux qui sont commis, je pense que le gouvernement congolais a d'abord 80% de la responsabilité. Parce que comment voulez-vous que c'est le même ministère ou le service qui octroie le permis de conduire aux personnes non qualifiées? Et c'est le même gouvernement, qui met des services de circulation ou on met des agents ou des agents de situation routière qui sont des sous-qualifiés qui ne savent pas les règlements de la route. Et moi, je pense que le gouvernement congolais a par grande partie de responsabilité de pouvoir vraiment chercher à capitaliser, faire des choses que là où réside sa responsabilité, qu'on puisse mettre des personnes qualifiées, des personnes qui sont censées bien contrôler, bien gérer la circulation.
Bon, faire le suivi et accompagner l'action. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé. Nous revenons à vous pour conclure. Henri Lissoumou, voilà, on laisse entendre qu'il y a les chauffeurs qui sont vraiment intervenus parce qu'on a essayé de les mettre en ligne depuis. Bon, on va essayer encore à nouveau. Simba, vous êtes avec nous?
Oui, alors je suis avec vous.
Voilà, rapidement, en une minute, vous avez la parole.
Oui, bon, Magal, mes prédécesseurs venaient de parler des problèmes de la SECO. Bon, mais ce n'est pas les bases du jour, mais je voulais dire quoi. Le gouvernement peut associer la SECO, parce que la SECO qui connaît plus les chauffeurs, qui connaît aussi les comportements des chauffeurs. Ce n'est pas le gouvernement qui connaît le comportement des chauffeurs, c'est la SECO qui connaît tous les chauffeurs. Parce que les SECO, ils sont là, ils viennent pour le ramasser seulement l'argent des parkings. Alors, ils peuvent l'associer pour des grandes sensibilisations aux chauffeurs.
Voilà, c'est ce que le ministère a fait. Il a rencontré la SECO et la PVCO en dernier lieu, donc pour que ce dernier puisse relayer le message auprès des usagers de la route. Voilà. Alors, Henri Lissoumou, je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous avez une part de responsabilité, et surtout en ce qui concerne la sensibilisation des chauffeurs et des conducteurs. C'est vrai, en ce qui concerne les 10 fléaux qui concernent les chauffeurs et les conducteurs, je crois que c'est le travail qui doit être fait par la SECO.
Nécessairement, parce que dans le protocole d'accord signé avec l'hôtel de ville, le rôle de l'ASECO, c'est de passer à la sensibilisation. Lorsque l'autorité prend des initiatives, c'est à l'ASECO de le faire. Mais maintenant, ça pose problème au sein de l'ASECO. Est-ce que nous avons, conformément au statut et règlement d'ordre intérieur, est-ce que nous avons des gens qui comprennent les choses de la manière que l'autorité veut que cela se passe? C'est là encore un problème. Donc il faudrait ici que le président général de l'ASECO puisse faire des réformes au sein de la structure pour permettre d'adapter l'association par rapport à la situation actuelle. Sinon, on resterait la manière la plus archaïque.
Vous n'avez plus d'excuses parce que l'autorité les tutelles a fait un pas, est allé vers vous, vous rencontrez la FECO.
Oui, mais l'autorité, je ne sais pas si au sein de la structure a rencontré des gens qui puissent lui dire certaines vérités en face. Vous comprenez, c'est ça le mal qu'il y a dans la FECO. On envoie des gens auprès du ministre qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas la force de parler. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils sont devant le ministre, ils ont la force, ils la trouvent. C'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut un cadre de concertation permanent. Il faut que le ministre mette en place un cadre de concertation. Chaque fois, et ces gens-là auront à évaluer la situation au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, le ministre est allé voir
la réforme des monitoring, mais savoir comment les réformes.
Oui, avec accompagner ces réformes. Accompagner, il faut accompagner. Pour accompagner cela, il faut aussi mettre les moyens. Or, les moyens ne suivent jamais. Le ministre fait des déplacements, on débloque un petit montant et puis ça s'arrête là. Et il vous demande au téléphone comment ça se passe. Mais vous savez qu'il faut voir toutes les chaînes, comme l'a dit notre ami ici. La sensibilisation, il faut des émissions de code de la route et dans les écoles, il faut des dépliants. Tout ça, ça demande beaucoup de moyens.
Intensifiés.
Que le ministre lui-même ne saura pas faire avec les mêmes moyens qu'on lui a donné. Il faudrait aussi l'implication du premier ministre qui est là, le patron du gouvernement, pour mettre beaucoup de moyens afin de sécuriser la population. Parce que lorsque vous aurez des populations toujours décimées, eh ben, le gouvernement peut passer à... On peut libérer un gouvernement comme ça à cause des accidents, nous en avons vu. Il y a eu crash quelque part et le ministre a été limogé. C'est ce qui va se passer si on ne prend garde à ces situations-là.
Donc il y a toujours moyen de sécuriser nos routes et je crois que pour arriver à capitaliser toutes ces réformes initiées par le ministère du Transport, il faut vraiment que les efforts soient conjugués. Il faut que tout le monde puisse travailler en synergie. Vous avez parlé de la FECO, le ministère des Transports, les CNPR, en fait tous ceux qui sont censés prévenir et travailler dans le sens de la sécurité routière.
Merci
beaucoup, Henri Lissoumbou. Nous rappelons que vous êtes membre d'ASECO.
Premier
conseiller. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vais
avoir fait les déplacements. Hein.
C'est cela.
Un grand merci.
J'aime bien au café.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Merci d'avoir participé à ce débat. Merci également à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission. Kiki Boutou et Thierry Lamézi l'ont réalisé et Jérôme Mouglas coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. La loi sportive congolaise promulguée en 2011 souffre de son exécution et prête à confusion. Au moment où la FECO face à prête à tenir du 24 au 25 mai prochain son Assemblée Générale, les voix s'élèvent à travers le pays pour s'opposer à la tenue de cette Assemblée qui qualifie d'inégale. Dans un mémorandum adressé au ministère national, les associations sportives ont demandé à l'autorité d'annuler cette Assemblée et de réviser les statuts de la FECOFA. Nous allons parler demain, donc prenez déjà rendez-vous avec nous. A très bientôt.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre est une rediffusion.